RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, Thomas Hurtel, donne-moi ton short.
Basket time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges.
Kylian Vérove.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Basket Time, un épisode évidemment exceptionnel puisqu'on va dans un instant accueillir un joueur qui a fait le pari fou de miser sur lui-même, que dis-je, qui a réussi le pari fou de miser sur lui-même il y a un an. Il quittait le Real Madrid pour retourner en NBA, direction les Sixers où il a bouclé une saison plus que réussie. Et puis il y a quelques heures à peine en pleine free agency, il a rejoint les Knicks de New York, excusez du peu. Je parle bien sûr de Guerchon Yabusele qui nous racontera tout ça dans un instant. Et puis pour l'accompagner, on va également accueillir dans le studio RMC l'un des agents français les plus influents dans le monde du basket, fondateur et président de la Maz Sport Agency, officiellement licencié NBA, FIBA et FFBB, et puis entre autres agent de Guerchon Yabusele, monsieur Olivier Mazé. Avec lui, on va s'intéresser à un monde pas forcément connu du très grand public, mais qui fait fantasmer plus d'un fan de basket et de sport en général. Un monde que tout le monde connaît sans vraiment le connaître pour autant, un monde de l'ombre qui souffre parfois de multiples préjugés et autres stéréotypes, celui des agents sportif. Pour m'accompagner aujourd'hui pour cet épisode exceptionnel, le chef de la cellule basket de RMC, membre éminent du podcast Basket Time, Félix Gabory. Salut Félix.
Salut Kylian, salut tout le monde.
Tout roule, tout va bien?
Bah tout va très bien, on est bien entouré là aujourd'hui.
Évidemment, accueillons-les sans plus tarder. Félix Guerchon, Yabusele et Olivier Mazé sont avec nous dans le studio RMC. Bonjour messieurs.
Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui.
Bonjour messieurs.
Vous allez bien? Ça va Guerchon?
Ça va super, et vous?
Tout roule?
Ça va.
C'était bien ce petit passage Moscato Show?
Ouais, plutôt cool, franchement, on a bien rigolé.
C'est les coulisses, t'es là à RMC pour faire quelques petits passages dans certaines émissions, certains formats qu'on pourra retrouver évidemment sur tous les réseaux et sur l'antenne. On va évidemment commencer par l'actu chaude, messieurs Guerchon. Je le disais, tu étais agent libre il y a encore quelques jours après une saison réussie individuellement. 11 points à 50% au tir, 5,6 rebonds de moyenne chez des Sixers où c'était peut-être un peu plus compliqué collectivement. Seulement 24 victoires cette saison. Tu as rejoint les Knicks, un prétendant au titre. Ils se sont arrêtés en finale de conférence cette saison contre les Pacers. Ta réaction d'abord après cette signature, c'est pas rien d'atterrir à New York.
Non, c'est clair. Ben forcément, je suis très content parce que l'objectif, c'était de pouvoir retrouver une équipe, de retrouver une équipe milliée sur plusieurs années. Et là, on l'a fait. Et puis, avec une équipe comme New York, en fait, c'est bien parce qu'ils ont cet ADN, en fait, qu'on a l'impression qui me correspond aussi de la manière dont ils jouent, vraiment dans la niaque, dans la dureté. Et puis, voilà, c'est une équipe qui est en train de monter. Chaque année, ils font de mieux en mieux. Là, c'était finale de conférence. Donc, forcément, de pouvoir rejoindre une équipe qui est prétendante au titre, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver.
Guerchon, les supporters des Knicks, tu les as un petit peu vus là cette année avec Philadelphie, c'est vraiment des supporters à part. Je pense que tu as hâte d'évoluer devant eux, non?
Ah ouais, forcément, c'est des fous, mais dans le bon sens. C'est qu'ils sont vraiment passionnés de leur équipe, ils les suivent à 100%, vraiment dans tout ce qu'ils font. Et puis tu sens vraiment qu'il y a cet engouement, quoi. Il y a cette fierté quand tu vas là-bas au match. C'est vrai que quand tu regardes courtside, il y a beaucoup de célébrités, etc. Mais c'est parce qu'il y a aussi cette attraction où les gens y viennent et ils supportent vraiment l'équipe. Du coup, il y a tout ce soutien-là autour de l'équipe.
Et puis il y en a un autre qui est fou aussi, c'est Spike Lee. On l'a dit, c'est pareil que pour les fans, il y a Spike Lee, t'as hâte de le voir en courtside s'exciter sur ce que tu vas faire sur le terrain.
Oui, forcément, parce que c'est légendaire, c'est Spike Lee dans tout ce qu'il a fait. C'est un peu l'icône à New York, c'est un personnage iconique. On va dire Square Garden, donc forcément, de pouvoir l'avoir aux côtés là-bas, de pouvoir faire des actions, essayer de se faire se lever, c'est assez incroyable.
Olivier, le temps que Guerchon reprenne ses esprits, cette signature de Guerchon au Knicks, toi aussi, ton ressenti par rapport à cette signature-là?
Avant même de rentrer sur le critère sportif, moi, je suis extrêmement content pour lui parce qu'il a eu le courage de faire un pari l'année dernière. Beaucoup de joueurs ont toujours... le fait d'assumer des ambitions, de vouloir aller en NBA. Par contre, il y a une grosse différence entre le dire et le faire jusqu'au point de prendre un risque financier. Et ce qu'il a fait, c'est presque inédit. C'est-à-dire qu'en fait, les gens voient ça de l'extérieur, mais sincèrement, la prise de décision chez Guerchon, elle a duré 30 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit...
Il était sûr de lui.
Ouais, je veux tenter cette deuxième chance. Je suis prêt à le faire. Il y a un coût financier, je suis prêt à l'assumer. Dites-moi juste, en fait, comment ça peut se monter structurellement et contractuellement pour que ce soit faisable. Et le mérite lui revient par rapport à ça, parce que ça a été une prise de courage. Et derrière, il l'a assumé tout au long de l'année, peu importe les difficultés qu'a connues Philadelphie, il a fait une saison pleine et vu le parcours qu'il a depuis quelques années, ben, je trouve que c'est une belle consécration.
Mérité du coup.
Plus que mérité. Ouais, plus que mérité, parce que plein de choses. Il y a eu les 5-6 dernières années, il y a quand même 3 années au meilleur niveau au Real Madrid, des titres, vainqueur de l'Euroleague, champion d'Espagne, joueur du mois en Euroleague, des victoires avec l'équipe de France, comment dirais-je, une campagne olympique exceptionnelle, voilà, qui aboutit sur une médaille d'argent, lui des performances individuelles remarquées, et puis derrière une saison en NBA qui confirme que c'est un joueur de standing NBA tout simplement. Donc ouais, c'est mérité.
Pour ceux qui n'avaient pas suivi ce pari fou, même la saison, le salaire que tu as eu cette saison aux Sixers, entre guillemets, compensait à peine l'indemnité qui avait dû être payée à l'époque pour quitter le Real Madrid. Maintenant que tu en es là, tu te dis quoi ? C'est de la fierté aussi ? C'est du soulagement d'avoir réussi ce pari-là ?
Oui, bien sûr. Après, cette pression-là, je la garde toujours. Je sais que là, cette année aussi, ça va être une année super importante. Donc, c'est clair que la pression, elle va être différente parce que là, j'ai, on va dire, entre guillemets, prouvé cette année-là. Donc, j'ai pu montrer pas mal de choses. Mais la motivation reste la même. Cette année, il va falloir encore tout casser. Il va falloir vraiment y aller. Donc, il y aura des opportunités. Donc maintenant, ça sera à moi de les saisir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce soulagement où on dit, bon, le premier pari, en tout cas, d'être venu ici, d'avoir joué avec Philly et d'avoir réussi, on l'a coché. OK, on l'a fait. Maintenant, la suite, c'est d'aller à New York, d'aussi laisser une empreinte et une trace là-bas et essayer de faire quelque chose la saison prochaine.
Gershon, on le sait, ça a été un peu raconté par les médias américains. Il y a d'autres équipes qui sont venues toquer à la porte là pour te signer. On a beaucoup parlé de Denver, de Milwaukee. Il y avait aussi San Antonio qui avait un petit intérêt. Est-ce que toi, comment tu as fait ce choix ? Comment tu as appréhendé ces différentes approches des différentes franchises ?
Bah ça, concrètement, on s'est posé aussi un peu avec les agents. On a discuté un peu, on essaie de regarder un peu les meilleures situations, les meilleures choses qu'on pouvait avoir. Et puis c'est vrai qu'avec New York, comme je l'avais dit, leur ADN vraiment de l'équipe, de ce qu'ils jouent. Vraiment, j'aime bien leur connexion même entre eux, les joueurs. Vraiment, j'avais dit qu'on les avait joués aussi cette année. J'ai ressenti justement cette force, j'ai ressenti qu'ils sont ensemble. J'ai ressenti qu'ils allaient ensemble dans la même direction. J'avais senti ça avec plusieurs équipes, dont New York. Donc c'est vrai que quand l'offre elle se présente, on réfléchit un peu, on essaie de peser un peu le pour et le contre. Mais clairement, on réfléchit et on voit que cette équipe-là, elle va clairement un peu dans mon sens, on va dire, où il n'y a pas forcément aussi de poste 4, un peu comme dans la même situation un peu de Philly, mais qu'il y a cette équipe justement d'engouement, d'envie. Et on s'est dit que le challenge, en fait, il fallait le faire. Et je pense que New York, il n'y a pas meilleur challenge pour pouvoir aller là-bas et réussir.
Avec qui t'as le plus hésité, s'il y a une hésitation ? Parce que, par exemple, là, il y a Denver, y a Jokic, ça va être une équipe qui va être concurrente pour le titre. Exactement. L'année prochaine. Ils ont fait une super free agency. Est-ce que t'as quand même un petit peu, ça t'a titillé quand même, Denver ? Enfin, je suppose qu'on a regardé ça de ton côté avec intérêt quand même.
Complètement. Complètement, parce que là, tu peux jouer avec Jokic, qui est pour moi un des meilleurs intérieurs aussi au monde, qui passe aussi la balle aussi bien qu'il peut scorer. Donc là, tu te dis, tu peux déjà avoir 6-7 points faciles. Que de passes, parce que lui, il y a tellement de personnes sur lui, donc il arrive aussi à faire les passes intelligentes. Mais tu regardes aussi New York, avec quelqu'un comme Brunson aussi, qui va attirer beaucoup de gens, qui est aussi fort aussi pour passer la balle. Quelqu'un aussi comme Karl Anthony Towns, qui est aussi super impactant dans le jeu. Donc tu trouves un peu les mêmes similitudes des deux équipes. Mais c'est vrai qu'on a pris un peu de temps aussi à réfléchir pour être sûr de prendre la bonne décision. Mais quand on réfléchit, on pense vraiment que New York, c'est la meilleure décision qu'on ait prise.
Même question pour vous, Olivier. Comment ça s'est passé ? Comment on appréhende une free agency quand on est agent de Gershon Yabusele et qu'on a 4, 5, 6 franchises qui ont un intérêt pour Gershon ? Et comment on se décide ? Comment ça s'est passé ces derniers jours, semaines, mois, je ne sais pas, par rapport à cette free agency ?
Je ne vais pas dire sereinement, mais avec quand même de la confiance, parce que ça validait le travail qu'il a fait pendant la saison. Donc, on avait quand même écho de l'intérêt très fort de certaines franchises. Et on savait qu'une fois la période des négociations ouverte, elles allaient poser une offre et puis faire part d'un projet sportif. Donc, il y avait une part de sérénité par rapport à l'entame de la free agency où on savait qu'on allait de toute façon déboucher sur un contrat. Après, c'était plus de l'exploration de chacun des projets et trouver vraiment ce qui pouvait correspondre à Gershon aussi bien sportivement, contractuellement, dans le timing. Vous parliez tout à l'heure d'un contrat de 2 ans avec une player option. C'était une stratégie forte et assumée. De pouvoir lui encore réaliser une année de meilleure facture que celle à Philly dans une équipe qui, on l'espère, jouera une position plus importante que celle de Philly malheureusement cette année, et donc d'arriver sur une prochaine free agency avec encore plus d'impact parce qu'il le mérite et qu'à un moment il y a une, une affirmation très claire d'aller chercher ce qu'il y a de mieux pour lui, aussi bien sportivement que contractuellement. Donc ça a été vraiment une étude et essayer de trouver l'expertise qu'il fallait pour prendre la bonne décision.
Olivier, concrètement, quand on est agent, comment ça se passe ces périodes de free agency? C'est le GM de la franchise qui, on échange comment? On échange par message, par texto? Il y a une première approche. Après, du coup, quand concrètement le contrat est mis sur la table, raconte-nous un peu tout ça.
Bah là, en fait, très concrètement, c'était des prises d'informations déjà pendant l'année, puisque le président de la franchise est quelqu'un qu'on connaît très bien, Leon Rose, et dans le cadre de New York, c'est lui qui a pris les commandes de cette discussion-là. C'est lui qui a clairement affirmé le fait qu'il voulait Gershon. Donc, il y a eu des échanges. Il y a eu, comment dirais-je, une première proposition qui a été posée. Puis ensuite, après, c'est aussi recueillir l'ensemble des intérêts, comme on l'a dit, des autres franchises. Et puis ensuite, une fois qu'on a sélectionné un peu les prétendants sur ce type de décision-là, c'est déclencher rapidement une réunion en visio, puisque Gershon était présent en France, avec les dirigeants de la franchise. Et Leon Rose, qui a clairement, lui, exposé le projet, fait part de l'intérêt qu'il avait vis-à-vis de Gershon, du rôle dans lequel il le voyait et à quel point Gershon était une priorité pour eux sur le recrutement. Et c'est tous ces éléments-là qui déclenchent après, on va dire, la validation de son intérêt.
Les premières approches, c'est quoi? C'est des WhatsApp, des SMS?
Des WhatsApp, ouais. Des SMS, ouais. De la même chose, c'est la même chose que pour la draft quelques jours avant. Il y a un appel, puis des WhatsApp, et on arrive très rapidement sur quelque chose. Une fois que l'intérêt de la franchise est clair, ça va très très vite.
Il y a une autre question aussi, c'est que Mack Brown n'était pas encore là, va sûrement être, enfin, est nommé coach des Knicks. À ce moment-là, ce n'était pas encore le cas. Il n'y avait aucun doute pour vous, Gershon, Olivier, sur l'utilisation qu'allait être faite de toi, Gershon. On t'a quand même donné des garanties. Et pareil, toi, Olivier, on a donné des garanties sur le temps de jeu, l'utilisation de Gershon.
Oui, bien sûr, on avait eu des garanties. Après, forcément, c'est un peu compliqué quand ça vient pas un peu, on va dire, de la bouche du coach, parce qu'après, c'est lui aussi qui va décider. Mais oui, on avait quelques garanties où on nous avait dit que voilà, ils allaient chercher un coach de toute façon qui allait jouer 9 joueurs, 10 joueurs, tu vois, vraiment un coach qui sait faire tourner l'équipe. Donc, à partir du moment où on savait ça aussi, on s'est dit, bon, en tout cas, on va dans la bonne direction. On était plutôt sûr, on va dire, de pas se tromper. Et puis, pour revenir aussi à Mack Brown, qui est un très bon coach, hein, voilà, on a vu aussi ce qu'il a fait avec Sacramento. Je crois qu'il était aussi avec Popovic, avec Steve Kerr. Donc, voilà, c'est quelqu'un avec qui on sait qu'il a une intelligence, qu'on sait qu'il est là, qu'il écoute aussi son staff. Voilà, j'ai eu beaucoup aussi de retours sur lui, donc je pense que ça va être une bonne année.
Ça peut matcher avec toi? Il a un profil très défensif, on le sait, il a été coach of the year en 2009 avec Cleveland, en 2023 avec Sacramento. Ouais. Ça peut matcher, tu penses, avec Mack Brown?
Ouais, en fait, il y a un coach en fait qui était affilié avec moi, bon, qui n'est plus affilié, mais on parlait par message. Il m'a dit qu'il était joueur pour lui, donc on discutait un peu et il m'a dit que ouais, qu'il pensait aussi que ça allait matcher avec moi, qu'on allait bien s'entendre, quoi. Voilà, c'était une bonne personne, que voilà, qu'il écoutait, qu'il était vraiment très patient, etc. Donc j'attends de voir, mais de toute façon, moi, je suis pas quelqu'un de très compliqué, des trucs comme ça. Le coach dit quelque chose, il faut le faire, tu le fais, et puis voilà. Et puis, c'est aussi simple que ça.
Gershon Yabouzélé est avec nous dans cet épisode exceptionnel de Basket Time avec Olivier Mazet, son agent. Quels sont tes objectifs la saison prochaine dans ces Knicks-là, individuellement, collectivement? À quoi tu t'attends la saison prochaine et qu'est-ce que tu aimerais accomplir?
Bah, franchement, tout. Je ne me mets pas de limite, en fait. Je me dis, voilà, j'essaie d'aller là-bas, d'essayer de tout donner, d'essayer vraiment d'être le meilleur de moi-même. Forcément, déjà arrivé en play-off, ça serait déjà super parce que voilà, j'ai jamais vraiment fait de match de play-off. J'avais joué un peu avec Boston, mais bon, c'était un contexte assez différent. Déjà, de pouvoir arriver en play-off, de faire déjà les premiers matchs de play-off, de passer des tours, ça serait la meilleure des choses. Après, forcément, avoir la bague, ça serait un rêve, quoi. Ça serait le comeback de ma vie, quoi. Revenir en NBA, trouver une équipe, signer et puis avoir la bague, ça serait le scénario fou, quoi.
L'histoire, elle serait folle.
Ouais.
T'as déjà eu un petit SMS de Brunson, de Kat, ouais?
Ouais, j'ai eu un message de Brunson, en fait, avec, je crois que Sam s'occupe de lui aussi, je crois, qui est un de mes agents aussi qui bosse avec Olivier. Du coup, il nous a déjà mis dans un groupe où on s'est parlé déjà un peu, plus ou moins. Donc, de sentir aussi cet engouement, que voilà, que les gens aussi, ils respectent un peu ce que j'ai fait, qu'ils sont contents que je sois dans l'équipe, c'est vraiment cool de savoir ça. Et franchement, ça te met un truc en plus où tu te dis, ouais, j'arrive dans une équipe où je suis attendu, il va falloir vraiment que je donne tout.
Et puis, le premier match de pré-saison, c'est contre...
les deux premiers matchs de pré-saison.
Philadelphie.
Contre Philadelphie à Abu Dhabi, ça va être génial. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas rêver de meilleurs scénarios. Il y a certaines choses qui arrivent pour une raison et je pense vraiment que ça, c'est fait pour être comme ça. Et c'est vrai que là, ça va être déjà le premier challenge. Donc, ça va arriver déjà assez tôt. Donc, à ce moment-là, il va falloir gagner les matchs.
Bon, si, quand même, le meilleur scénario, ce serait d'arriver là-bas en étant médaillé.
Ah oui, oui, oui.
Potentiellement.
Ah, oui. C'est vrai parce que là, je parlais trop vite.
En parallèle de cette free agency ouais. et du fait que tu étais du coup agent libre et que tu as signé au Knicks, il y a aussi eu cette présélection ouais. Chez les Bleus qui a été annoncée il y a quelques jours. Tu fais partie de cette présélection-là. Pareil, même question, comment ça se passe, Olivier ? Est-ce que vous intervenez également dans les présélections ? Est-ce qu'on vous contacte ? Est-ce que par rapport au Knicks, il y a eu des discussions par rapport au fait que Gershon puisse jouer en Bleu cet été ou non, comment est-ce qu'on gère la double casquette de Gershon?
Bah, on va dire que par rapport à la présélection, c'était un peu un secret de polichinelle que Gershon fasse partie des joueurs appelés sur cette campagne-là. Moi, je représentais trois joueurs qui étaient sur la campagne olympique l'été dernier, donc pour certains d'entre eux, c'était presque assez naturel qu'ils soient appelés. Il y en a d'autres pour lesquels il y a eu des échanges avec le staff de l'équipe de France et puis de la prise d'informations. Et puis, en ce qui concerne les Knicks, quand on a eu cette visio avec Gershon, très naturellement, Leon Rose nous a demandé quel était son planning estival. Il savait qu'il y avait ce championnat d'Europe-là et ça a été très bien accueilli. Et au contraire, ils ont même mentionné le fait qu'ils vont envoyer une délégation des Knicks qui sera présente pendant l'Euro. Donc, il n'y a pas du tout eu de barrière ou d'inquiétude par rapport à ça. Je pense que le président voit ça d'un très bon œil, qu'il puisse faire une compétition de ce niveau-là, ce qui lui permet d'arriver dans les meilleures conditions après sur le training camp.
C'est un argument qui a compté, Gershon, ça aussi, le fait qu'il te laisse, entre guillemets, cette liberté-là et en plus t'accompagne en envoyant un coach ou deux avec toi sur cet Euro ?
Bah oui, bien entendu, parce que pour moi, c'est un objectif, l'équipe de France. Voilà, tout le monde le sait. Je ne pense pas que j'aurais accepté qu'on me dise de ne pas y aller. Ça, c'est, pour moi, c'est au-dessus de ça. Voilà, c'est jouer pour ton pays. Ça n'a rien à voir avec les clubs. C'est vraiment quelque chose qui est à part. Donc voilà, je ne pense pas qu'on allait m'interdire. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu vois qu'on va dans le sens, vraiment, qu'on est content, qu'on dit qu'on va envoyer des gens, tu sens cet intérêt-là et tu te dis « Ah ouais, ok, c'est cool, tu vois, j'ai pris déjà la bonne décision ».
Et puis là, en plus, tu vas être un des tauliers de l'équipe de France avec toutes les absences qu'il y a. Wembanyama, Gobert, même Fournier. Bon, on n'est pas sur un poste intérieur, mais tu vas être une des premières options offensives de l'équipe de France. Et donc, je suppose que ça aussi, ça pourra contribuer à te mettre en confiance, à arriver avec un tout autre statut pour le début de saison régulière au Knicks.
Ah, c'est clair que ça s'est déjà arrivé avec le passé et qu'on... On a fait l'expérience que de toute façon, quand tu fais généralement un bon été, que tu arrives en club, c'est la suite en fait qui se passe. C'est-à-dire même toi, ton corps, il s'adapte. Même toi, mentalement, tu es bien, tu es prêt physiquement. Donc forcément, de faire un bon euro là, ça va aider tous les joueurs ensuite dans les clubs qu'on a de pouvoir commencer et de faire une bonne saison, clairement.
Félix ?
On aura plus à ajouter sur
sur cet Euro-là, sur cette équipe de France, question un petit peu à part, mais très actualité. Tu l'as dit, Félix, il manque pas mal de premières options dont on pouvait avoir l'habitude sur les dernières compétitions. Est-ce que ce côté renouvellement d'effectifs aussi, tu es un des joueurs les plus âgés, on a une équipe de France très jeune sur les 18 joueurs qui ont été présélectionnés. Est-ce que ce rôle-là aussi de mentor, tu as envie de t'imposer comme ça aussi dans cette équipe de France là, pour cet Euro qui arrive ?
On va voir comment ça se passe. Vous savez, moi, je suis très léger, on va dire, où voilà, je laisse un peu les gens faire ce qu'ils aiment faire. C'est qu'on est... On est tous un peu différents. Je sais qu'on a des préparations différentes. Je sais qu'on fait des choses différentes, qu'on ne dort pas forcément tous pareils et tout. Donc, j'aime pas avoir ce rôle-là un peu, on va dire, de chef, on va dire. Mais sinon, forcément, je sais que dans une équipe, c'est important. L'année dernière, on l'a vu, par exemple, avec les hauts et les bas qu'on avait eu avec les JO, d'avoir des gars comme Nando et Nico à chaque fois qui nous recadrent un peu, avec qui on faisait des réunions, avec qui on pouvait discuter. C'est vrai que c'était super important. Donc, je sais à quel point c'est important. On ne sait pas encore comment ça se passait au niveau des capitaines, etc. Bon, on est plein de joueurs. Mais en tout cas, si ça arrivait et que c'était moi, ben en tout cas, je prendrais le truc très au sérieux et j'essaierais vraiment qu'on soit une équipe connectée, ensemble, et qu'on part tous dans la même direction.
Et puis, on vise la plus belle des médailles.
Ça, c'est clair que c'est un gros objectif. Comme tu as pu le dire, voilà, on est une équipe de France jeune, mais le talent y est. Donc là, tous les joueurs qui sont là, la liste de 18, on ne sait même pas qui va rester, qui va partir, tellement c'est compliqué. Mais en tout cas, les 12 qui seront pris, c'est clair qu'il faut qu'on ait la même vision et qu'on essaie de ramener la médaille.
Quand on parle équipe de France, évidemment, on pense au JO de l'année dernière et de ton dunk sur LeBron James, le fameux. Là, on peut dire un peu dévoiler les coulisses. Il n'y a pas une personne qu'on peut croiser dans les couloirs des RMC qui ne te parle pas de ce dunk-là. Tout le monde absolument t'en parle.
Non, bah, je pense qu'on se balade dans les rues de Philadelphie l'année dernière, c'était pareil. Ouais, clair, New York, ça clair. Va être pareil.
C'est clair. C'était assez dingue ce moment-là.
Et Olivier, au niveau des justement de toutes ces histoires de contrats l'année dernière, quand il revient à Philadelphie, tu me disais que ça avait été très important, que ça avait été un peu un élément déclencheur pour le retour de Gershon en NBA l'année dernière, que ça avait vraiment été le petit truc en plus quoi, pour faire son retour en NBA.
Le téléphone a dû sonner à ce moment-là.
Alors, il faut le dire clairement. Moi, j'ai coutume de dire maintenant que ce dunk-là sur LeBron, c'est le dernier coup de marteau qui a enfoncé le clou de son retour en NBA. Oui, depuis 2-3 ans, il y avait des sollicitations, il y avait des intérêts. Maintenant, comme il le disait chez vos confrères tout à l'heure du Moscato Show, intérêt ne veut pas dire contrat. Donc là, il y avait une campagne olympique où il a montré que contre des équipes qui avaient beaucoup de joueurs NBA, il était impactant. Donc il y a déjà une première étape contre le Canada, puisqu'en face, c'est Dillon Brooks, et il fait un super match. Du coup, l'intérêt des franchises continue de se manifester. Et puis après, il y a ce dunk mythique sur LeBron James qui, clairement, déclenche un emballement, clairement, qui se manifeste par quasiment 3 intérêts très forts dès le lendemain. Donc le timing, il n'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que ces 3 intérêts-là, ils auraient pu intervenir 24 heures ou 48 heures avant. Ils interviennent le lendemain. Donc oui, c'est une action d'éclat qui, à un moment, marque les gens. Voilà. Et ça résume plein de choses sur sa qualité physique, athlétique, sur sa maturité, sur le mindset, l'état d'esprit qu'il a eu pour jouer une finale olympique. Et donc du coup, tout ça, je pense que ça débloque effectivement certains intérêts, oui.
Ça montre aussi juste que les Américains fonctionnaient énormément aussi au coup d'éclat. Hein, c'est
100%.
Ouais, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la culture de la NBA, ouais. Ça fait partie de la culture américaine. Ce coup d'éclat.
Oui, parce que les saisons magnifiques au Real Madrid n'auraient pas suffi à l'époque, alors que là, un highlight et puis...
Ouais. Après, c'est un highlight qui confirme aussi une très grosse campagne olympique.
Oui, et puis des saisons...
Et des saisons derrière. Mais c'est la cerise sur le gâteau, oui.
Bien sûr. Gershon, merci d'être avec nous. Tu restes avec nous. On va juste essayer de creuser un petit peu sur ce métier d'agent qui est un métier de l'ombre, je l'ai dit en introduction, et on te fera réagir un petit peu, voir si tu valides ce que va dire Olivier. Olivier, je l'ai dit dans mon introduction, tu es fondateur et président de la Maz Sport Agency depuis 20 ans maintenant, si je ne m'abuse.
Ouais, 17.
17 ?
Ouais,
je croyais que c'était 2005, ouais. Autant pour moi, 17 ans. On a commencé à en parler, mais est-ce que tu peux développer un petit peu en quoi consiste le métier d'agent ? Je ne sais pas uniquement faire signer à Gershon son contrat au Knicks, ça va bien plus loin que ça. Est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui auraient cet idéal-là du métier d'agent ?
C'est une profession qui souffre de beaucoup de clichés et beaucoup de fantasmes où les gens réduisent ça très souvent aux signatures de contrat. L'agent, c'est vraiment l'intermédiaire qui intervient dans des moments heureux, comme là actuellement, la signature d'un contrat, ou des moments plus délicats où il y a une rupture entre un club et un joueur. Et c'est à ce moment-là que l'agent, il est médiatisé. Donc, les gens ont tendance à réduire notre activité autour de ce prisme-là, alors que c'est une activité qui est beaucoup, beaucoup plus grande. C'est-à-dire que pour les joueurs qu'on accompagne, la véritable activité pour moi, c'est celle de construire une carrière, d'établir une stratégie, d'avoir un plan de carrière qui va permettre d'optimiser ton potentiel pour essayer d'aller au plus haut du niveau que tu pourrais toucher. Et ça passe par plein d'étapes. Ça passe par déjà le passage d'un niveau espoir sur un niveau professionnel. Ensuite, après l'arrivée chez les professionnels, essayer de s'installer dans une division. Essayer ensuite après de comprendre quels sont les critères et quels sont les objectifs que tu vas devoir, les axes de développement que tu vas devoir développer justement pour aller sur un championnat européen, pour jouer en Euroleague. Et puis ensuite après, comment tu fais pour t'installer sur un niveau. Donc, c'est toute une planification de carrière et une stratégie qu'il faut mettre en place pour y arriver. On parlait tout à l'heure... dans les couloirs d'un joueur qui illustre parfaitement ça. Ça peut être aussi le cas de Nadir Ifi. Nadir Ifi, il y a 5 ans, il évolue en National 3, c'est la 5e division française. Et on n'est pas passé de la 5e division à Rising Star de l'Euroleague. En fait, il y a eu toute une stratégie qui a été mise en place et qui est facilitée parce que ce garçon-là, c'est un
bourreau de travail. Oui, c'est ça. Il y a des stratégies qui sont, accélérées, des stratégies qui sont ralenties.
On est juste des accompagnateurs. Alors qu'à un moment, il ne faut pas être calife à la place du calife. Le joueur est sur le terrain, c'est lui qui a les cartes en main. Nous, par contre, on essaye de lui présenter des scénarios, on essaye de lui dessiner des voies. Par contre, c'est son travail, son abnégation, sa force de caractère qui va concrétiser ce plan-là. Mais dans le cas de Nadir, ça a été de trouver quelles allaient être les étapes pour un garçon qui avait été recalé, et je le dis haut et fort chaque fois, par 14 des 18 centres de formation français. Voilà. Et il a fallu trouver un moyen de le faire rentrer dans le championnat espoir et puis ensuite après de l'insérer chez les pros. Le Portel l'a lancé avec Eric Girard. Et puis ensuite, quand tu sors du Portel, c'est quoi l'étape d'après? Le Paris Basket, une équipe qui va jouer le haut de tableau en championnat, qui va jouer une Eurocup. Et puis ensuite, l'année dernière, quand il gagne l'Eurocup, Nadir, les gens ne le savent pas, mais aurait pu partir du Paris Basket. Il a eu des sollicitations de gros clubs Euroleague. Sauf que nous, on a décidé que
la continuité
était ce qu'il y avait de mieux, parce que jouer l'Euroleague avec un club qui épouse parfaitement son style de jeu, avec lequel il a des responsabilités, des repères, sans savoir pourtant à l'époque que Thomas Isalo n'allait plus être le coach. Mais voilà, quand on parle de métier d'agent de joueur, pour moi, le véritable ADN de ce métier-là, c'est la stratégie, la construction de carrière et puis l'accompagnement au quotidien dans tout son parcours, que ce soit l'optimisation de la performance et plein d'autres choses. La signature des contrats, c'est entre guillemets ce qui est visible et ce qui est le plus médiatisé, oui.
Gershon, cet accompagnement-là, il est important, primordial?
Oui, bien sûr, je le dis tout le temps. On en avait parlé aussi tout à l'heure, ce matin, on en avait parlé aussi à l'INSEP là, dans l'intervention qu'on avait eue, où on m'avait posé la question justement de savoir un peu comment ça se passait. Et je disais, quand tu arrives en NBA et que tu es jeune, ça joue beaucoup aussi de l'entourage que tu as. La famille, mais aussi les amis, mais aussi les agents. Ça joue beaucoup. Donc en fait, d'avoir une base qui est solide, ça te permet à toi aussi de garder les pieds sur terre, ça te permet d'avoir quelqu'un à qui tu as besoin de parler, ça te permet d'être dans des situations en fait, ou dans des trucs comme ça, où là, un agent, il peut comprendre et qu'il peut t'accompagner, il peut te rendre visite, il peut aussi te calmer. Par exemple, je me souviens quand j'étais à Boston et que c'était pas forcément tout beau, tout rose tout le temps, ben, Olivier, voilà, son job, c'était aussi de me parler, de continuer à me motiver, de me donner confiance en moi, d'essayer de trouver des choses comme ça. Donc voilà, je trouve que son rôle à lui d'agent, il le fait très très bien dans... Il est très bon dans ce qu'il fait, il le sait, mais vraiment d'accompagner les joueurs du début jusqu'à la fin, de faire ça. Moi, je suis avec lui depuis le début et voilà, je ne regrette pas une minute.
Olivier, pour que les fans de basket qui nous écoutent comprennent bien un peu l'importance de l'agence que tu représentes, tu as combien de joueurs là actuellement dont tu t'occupes et combien t'en as, et qui t'as géré au fur et à mesure de ta carrière?
On gère aujourd'hui une soixantaine de joueurs, de clients, on va dire coach et joueurs. On représente sur la dernière campagne olympique Gershon, Frank Ntilikina, Mathieu Strazel, auteur de ce shoot formidable et salvateur contre le Japon. Des garçons comme Nadir Ify, Mathis Dosuyovo qui ont été champions de France cette année. Donc voilà, on a des joueurs qui jouent aussi bien en Euroleague qu'en Europe, qu'en NBA. Mohamed Diawara qui vient d'être drafté par les Knicks justement en 51e position. J'ai eu la chance moi d'accompagner des gens qui m'ont marqué dans ma carrière et qui m'ont façonné moi en tant qu'agent. Je rends souvent hommage à un garçon qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelle Ludovic Fati, qui a été un de mes premiers clients, on va dire, international français, qui est en équipe de France, qui malheureusement est décédé pour des raisons cardiaques. Mais moi, ce qui me marque vraiment dans ma carrière, c'est les relations qu'on a pu créer avec les joueurs que j'ai accompagnés. Tu vois, il y a un truc dont je suis super fier par rapport à Gershon, c'est d'avoir partagé des moments de réussite, mais des moments compliqués aussi. Tu vois, la Chine, ce n'était pas super facile. L'année du Covid ne l'était pas non plus. Et de voir aussi l'évolution de ces garçons-là, tu vois, de le voir fonder une famille, il a 3 enfants maintenant. J'avais la chance d'être présent à son mariage. C'est ça, pour moi, entre guillemets, tu vois, le véritable bénéfice de cette activité-là. Oui, il y a un côté extrêmement valorisant parce que j'exerce un métier qui est ma passion au demeurant. Mais c'est l'aventure humaine, moi, qui me parle. C'est de vivre ces choses-là au quotidien avec des joueurs et puis des trajectoires, des fois qui sont malheureusement, comme on en a parlé pour Ludo, dramatiques, mais aussi des moments de joie intense où des garçons gagnent une médaille d'argent sur des JO chez eux. Voilà, c'est des choses qui sont extrêmement enivrantes.
Et comment on fait pour devenir agent? Toi, comment tu as commencé? C'était quoi tous tes débuts? Si tu peux revenir un peu sur ton parcours. Parce que je sais pas, il n'y a pas d'école pour devenir agent, il n'y a pas de diplôme, c'est un truc.
Alors maintenant, il y a des écoles qui préparent un petit peu au fait de passer la licence d'agent, puisque c'est une licence qui est passée avec la Fédération française et le ministère des Sports. Vous avez un tronc commun et un examen spécifique. Moi, en fait, je jouais sur un niveau très, très modeste en national. Lorsque j'étais jeune, et j'ai assez rapidement compris que j'avais pas les aptitudes pour être joueur de très haut niveau en Pro A et encore moins en Europe ou à l'international. Donc heureusement, ce qui m'a sauvé, c'était un peu clairvoyance. Et puis ensuite, j'ai arrêté de jouer relativement tôt pour des raisons familiales. Et puis au détour des relations que j'ai pu créer avec des coachs, avec des dirigeants que j'ai eus lors de mes années en national, tout le monde m'avait dit, tu devrais te renseigner un petit peu sur cette nouvelle licence qui a été mise en place par la fédération sur le métier d'agent. Et au début, on a commencé en créant des tournois de détection en région parisienne qui avaient pour but d'envoyer des jeunes faire des essais en centre de formation qui s'appelait Basket Contest. Et d'ailleurs, le nouveau copropriétaire du Paris Basket, Omar Sy, faisait partie de la grille événementielle de ces tournois-là, donc il y a 20 ans, pour le coup, ça c'était 2005. Et donc, ouais, rapidement, en fait, cette notion de vouloir accompagner des joueurs à réaliser leurs ambitions, c'est quelque chose qui m'a parlé, et ça a été vraiment le déterminant de ce lancement. Ouais.
T'es pas tout seul au sein de l'agence pour gérer tout ce monde, comment s'organise ton équipe, comment vous bossez ensemble?
Ouais, c'est fondamental pour maintenir une qualité de niveau équivalente sur tous les clients, d'être staffé. Donc j'ai deux personnes qui évoluent avec moi au quotidien, j'ai un collaborateur Emmanuel Esso qui est agent depuis 8 ans, qui fait partie de l'agence. Et en fait avec nos deux collaborateurs, c'est de trouver un management horizontal. C'est-à-dire donner à tous nos joueurs, qu'ils soient joueurs en NBA, international français ou jeunes joueurs espoirs dans des centres de formation, un même niveau d'investissement humain de notre part. Donc on essaye vraiment de se répartir la charge et puis de faire en sorte que ces joueurs ils sentent qu'ils ont une équipe autour d'eux et que peu importe leurs besoins, leurs difficultés, ils auront quelqu'un à qui ils peuvent parler, parce que si moi je me trouve dans un avion, Emmanuel est disponible et inversement. Donc c'est vraiment d'apporter, entre guillemets, un service humain sur mesure et personnel.
Et comment elle se fait la prise de contact à la base? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les jeunes joueurs? Est-ce que c'est les joueurs qui vous contactent? Est-ce qu'il y a des deux? Comment ça se passe?
Forcément, au tout début de ma carrière, c'était plutôt moi qui allais contacter les joueurs parce qu'il fallait bien commencer par quelque part. Mais maintenant, on marche beaucoup par recommandation, par cooptation, parce que c'est un milieu qui est petit. Donc la plupart de ces jeunes joueurs ont des coachs qu'on connaît, ont eu des gens dans les différentes structures qui nous ont recommandé ou qui les ont recommandés. Et les choses se font assez naturellement. Il y a des joueurs qui nous ont contactés parce qu'ils ont vu le travail qu'on fait avec certains joueurs. Les parents ont fait une démarche. Et donc maintenant, on est beaucoup axé sur la recommandation parce qu'on met très, très, très en avant le critère humain. Donc on essaye d'avoir des parties qui vont coopter ces gens-là parce qu'au moins, on a des repères sur l'accompagnement.
Gershon, tu te souviens comment ça s'est fait, le premier contact avec Olivier?
Oui, je crois que
pour
la petite anecdote aussi, quand j'étais à Rouen en jeune joueur, Olivier m'avait déjà contacté, je crois, j'avais failli déjà bosser avec lui à l'époque. Et après, quand on avait décidé de se mettre ensemble, on avait une personne en commun, je crois que c'était Baba Karsi,
ouais,
qui nous avait mis en contact et on avait discuté et puis je m'étais souvenu déjà de lui et puis je m'étais dit bon, en plus ça tombe bien parce que il était déjà là quand j'étais jeune, donc il sait à peu près, c'est pas quelqu'un qui est venu directement quand j'étais haut et tout, donc vraiment je sais qu'il m'avait suivi, je sais quelqu'un qui faisait vraiment attention déjà quand j'étais jeune, donc déjà ça m'avait déjà plu un peu, qu'il sache un peu. Et puis ça s'est fait naturellement, on a parlé un peu directement, on s'est compris, j'ai vu qu'il écoutait mes ambitions, qu'il écoutait vraiment et qu'on est dans le même sens, et puis voilà, on a décidé de bosser ensemble.
Olivier, est-ce que vous gérez aussi des joueurs qui atterrissent en France pour potentiellement une saison, des Américains par exemple, ou est-ce que c'est vraiment beaucoup d'investissement sur le long terme?
J'ai eu à le faire parce que j'avais créé des partenariats avec des agences américaines il y a quelques années. Donc j'avais des joueurs qui venaient sur le championnat français, qui était à l'époque uniquement un championnat de tremplin. Aujourd'hui, le championnat de France est probablement le deuxième meilleur championnat européen. On a 3 équipes d'Euroleague, 2 qui étaient en play-off. Donc déjà, les joueurs étrangers, lorsqu'ils viennent ici, soit ils veulent s'établir en France, soit s'ils partent, s'ils ont performé, c'est pour aller sur des très grosses équipes européennes. Donc déjà, ça a changé le cheminement classique des étrangers. Et puis nous, maintenant, depuis quelques années, on essaie vraiment d'avoir aussi notre clientèle d'étrangers à nous. Donc on représente nos joueurs américains. Parce que dans la même idée de gestion de carrière, on trouve que c'est plus pertinent d'être sur l'élaboration d'un plan de carrière et pas sur du one-shot. Mm-hmm. Faire du one-shot avec un joueur, le placer, c'est l'activité, comme on le disait, un peu caricatural de l'agent. Tu fais un contrat pour un mec, mais tu ne sais pas forcément d'où il vient, tu ne sais pas où il va aller demain. Est-ce que ce choix à l'instant T était le meilleur? Finalement, c'est un petit peu, comme on dit aux États-Unis, du gambling, la roulette russe. Voilà, tu paries sur un truc. Nous, on essaie vraiment de travailler sur de la durée, donc on essaie de plus en plus de travailler même avec nos étrangers sur de la représentation en direct et sur du long terme.
Il y a un autre moment qui est très important dans la saison, je pense que c'était il y a quelques jours, c'était la draft. Toi, tu étais agent de Mohamed Diawara qui a été drafté en 50e position au Knicks. Tu as été aussi l'agent de, enfin, tu es encore l'agent de Frank Ntilikina qui a été drafté très haut encore par les Knicks. Décidément, j'ai l'impression qu'il y a une petite.
Il y a une histoire particulière avec les Knicks. Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement, tout le processus de draft pour les jeunes joueurs que tu représentes ?
C'est marrant parce que le processus de draft de Mohamed Diawara, il s'apparente un peu à celui de Gershon. Franck, lorsqu'il s'inscrit à la draft, on est sur un joueur qui est estampillé comme un très probable top 10 de la draft. Donc du coup, on est plus sur une stratégie qui va être une stratégie de protection et puis de garder sa cote et puis de gérer vraiment les playoffs, parce qu'en plus, c'était en finale NBA, en finale de Pro A pardon, à ce moment-là. Donc c'était assez différent. Sur des garçons comme Mohamed Diawara, et c'était le cas avec Gershon, c'était véritablement partir à l'abordage. C'est-à-dire que Mohamed Diawara, il faut quand même savoir que un mois avant la draft, il n'est pas listé dans le top 100 d'une mock draft dont je ne citerai pas le nom, assez célèbre, il n'est pas dans le top 100. Donc à partir de ce moment-là, c'est de se dire, on va te construire un calendrier de workout où il a fait 11 essais en 20 jours, c'est-à-dire 11 villes. Je crois que Gershon en avait fait quasiment 15.
Ouais.
Donc en 23 jours. Ouais. Donc c'est vraiment... alors on essaie de définir des zones stratégiques, on ne va pas faire voyager les joueurs de Est en Ouest oui. comme ça tous les jours, sinon on va les tuer. Mais c'est vraiment multiplier le nombre de workouts pour, entre guillemets, imposer aux franchises ce qui peut être une évidence. Un garçon comme Mohamed Diawara, c'est quand même un mec qui jouait 20 minutes de moyenne dans une équipe qui a terminé 3e de la saison régulière du championnat de France. C'est un mec qui était champion d'Europe avec les U20 l'été dernier. Il a des mensurations exceptionnelles, il fait 2m5, il a 2m23 d'envergure de bras. C'est un défenseur, c'est pas un mec de stats. Donc ces profils-là, il faut les exposer. Et donc c'était pour Mohamed le faire montrer le plus possible aux décideurs, aux franchises, et puis ensuite après définir sur la fin du process une stratégie avec qui on allait insister, avec qui on allait peut-être un peu se reculer pour arriver à un résultat positif. Gershon, lorsqu'il est parti, il était prévu, on en a parlé tout à l'heure, au milieu du deuxième tour, il termine 16e. La progression, elle est spectaculaire dans un laps de temps record. Donc, c'est vraiment établir encore une fois une stratégie et de se dire comment on va faire pour faire monter cette cote au plus haut jusqu'au moment de la draft.
Et tu fais comment pour convaincre les recruteurs, les franchises de faire passer des workouts ? Tu les contactes directement ? Tu te sers de ton carnet d'adresse ? Comment on fait ?
Oui et non. En fait, on se sert évidemment du carnet d'adresse de toutes les franchises dont on connaît les représentants, mais sur des garçons estampillés haut prospect depuis quelques années, Mohamed Diawara a été vu par toutes les franchises en France. Parce que maintenant, le championnat de France est extrêmement attractif pour toutes les équipes NBA. Il n'y a pas une semaine où il n'y avait pas des émissaires qui étaient là pour regarder Nolan Traoré, Noah Pinda, Mohamed Diawara. Je me rappelle d'un match au Mans au mois d'avril. Le Mans-Cholet, je crois qu'ils avaient dénombré pas moins de 25 personnes qui étaient présentes sur ce match-là. Des scouts, des managers généraux, des assistants GM, des présidents même. Donc en fait, c'est juste réussir à compiler un planning. Une stratégie, par exemple, on n'a pas ciblé des équipes qui avaient un choix dans le top 5 pour Mohamed. C'était une perte de temps. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait cibler des équipes dans son range de deuxième tour avec certaines équipes qui étaient en fin de premier tour parce qu'il y a eu des discussions et de trouver, entre guillemets, l'enchaînement qui allait permettre de faire monter sa cote au plus haut jusqu'à l'arrivée de la draft.
Gershon, tu te rappelles de ce moment de tous les workouts, de ce marathon ? Ça doit être quelque chose de fou à vivre, de déreintant ce processus d'avant-draft là.
Ah ouais, complètement, c'est assez fou. En plus, moi, je viens de Rouen à ce moment-là, parce que j'étais à Rouen, j'étais dans la saison là-bas, j'ai terminé. Donc j'y vais, voilà, moi j'arrive de France, bon j'étais déjà allé aux États-Unis, mais bon là je voyage vraiment dans toutes les équipes, je commence déjà un peu à m'habituer, à m'entraîner à chaque fois. Et puis, c'est assez rapide. Hein. Tu prends l'avion, tu arrives la veille, le lendemain matin, ça commence. On est 6 gars la plupart du temps, 2 intérieurs, 2 extérieurs, 2 meneurs. Et après, là, j'ai pas envie de dire ça se bat, mais là, ça joue direct. Quoi. Donc, 3 contre 3 directement, tu es en situation. Après, on met les... Je m'en souviens du workout que j'avais aux Clippers. C'était moi avec l'autre intérieur d'un côté, donc sur un terrain, et les autres là-bas. Et puis nous, on joue direct, ils veulent voir. Donc là, c'est du 1 contre 1, du truc et tout. C'est la compétition directe, donc il faut être prêt. Après, on note aussi sur le shoot, sur les pourcentages. Et des fois, pas dans toutes les franchises, mais il y en a beaucoup qui font courir à la fin les 3 minutes, là où il faut faire le plus d'aller-retour. Donc il y a aussi ça qui compte un peu. Mais ouais, t'es impressionné, t'es content d'être là, mais voilà, tu te dis pas je suis là pour profiter, pour rigoler, pour passer un bon moment. C'est là, tu te dis je suis là pour changer ma vie. Donc la motivation, elle est différente. Et ouais, j'y suis allé avec la niaque et la rage, et puis voilà, quoi, ça l'a fait.
Ouais, ça devait être pareil quand il y avait les scouts en tribune, etc. Il fallait absolument rester focus sur ton jeu et garder les pieds sur terre. Et je pense que c'est là aussi le rôle d'Olivier, ouais. C'est de te dire bah, il y avait ces scouts là, mais aussi reste concentré sur ton jeu. C'est important, ça aussi.
Bah oui, c'est pour ça que il y en a qui aiment pas savoir souvent, en plus quand ils sont là les scouts. Alors moi, ça me dérange pas du tout. faut me dire, voilà, c'est même encore mieux, parce que moi, en fait, je préfère savoir aussi, que je puisse faire des fois faire attention à ce que je peux faire, tu vois. Ils regardent beaucoup
l'attitude.
L'attitude, ouais. Voilà. J'allais dire le body language, ouais. Mais c'est ça, c'est l'attitude. Ils regardent vraiment tout. Une mauvaise passe, un shoot raté, voilà. Ils font vraiment attention à ces trucs-là. Donc des fois aussi, de savoir ça, ça te permet vraiment de faire attention à toutes les petites erreurs que tu peux faire. Mais sinon, moi, ça me donne même encore une motivation un peu plus, tu vois. Je me dis pas aujourd'hui, je vais essayer de jouer comme Michael Jordan, essayer d'en faire plus. Je me dis, je vais jouer comme je joue moi, je vais essayer d'être juste, mais je vais vraiment essayer de tout donner, quoi. Et c'est souvent comme ça que tu arrives à faire des gros résultats.
Mais en plus, il y a une chose, c'est que par rapport à l'année où Gershon est drafté en 2016 et maintenant, il y a une flanquée de Français qui ont été draftés. Donc, ouais. Du coup, maintenant, les franchises viennent même certaines fois à l'entraînement, lorsque les clubs l'autorisent, ouais. Elles sont à l'entraînement. Donc les joueurs savent que de toute façon, ils sont évalués constamment.
Oui, toute l'année.
Donc on n'est pas exactement dans la même chose où à l'époque, tu pouvais dire, oui, ou ne pas dire aux joueurs qui étaient là. Maintenant, ouais. C'est une évidence.
Ils sont là.
Ils sont là et tu vis avec ça. Et là où c'était encore un peu différent par rapport à Mohamed, c'est que dans le cas de Gershon, son équipe, malheureusement ou heureusement, n'avait pas fait les playoffs. Donc on avait, nous, très rapidement, un planning qui était prévu. Ouais. Ah oui, dans le cas de Mohamed Diawara, avec Cholet, il a fait les playoffs. Et donc, à chaque match qui passe, ton planning se rétrécit et tu ne sais toujours pas quand est-ce qu'il part. Et les dates de workout avec les franchises, ce n'est pas toi qui les décides. Elles sont fixées, donc tu dois t'adapter. Et c'est là où il y a un côté un peu stressant et angoissant pour nous en tant qu'agents. C'est qu'on va devoir optimiser au maximum dans un laps de temps réduit pour faire toutes les franchises qu'on a ciblées.
Et puis le but, c'est de ne pas laisser transpirer ce côté stressant, non. Je suppose.
Clairement.
Il faut que le joueur, il sente que tout est cadré, il faut qu'il ait confiance et qu'il ne ressente pas cette pression-là.
Il faut que le joueur, il sente que tu maîtrises la situation, oui. Et que tu as un plan, et que même s'il y a quelques accros, parce qu'il y a un match 3 de play-off et qu'on ne sait pas si tu pars le dimanche ou le mercredi, bah, tu vas t'adapter. Et puis même les franchises. Il faut qu'elles sentent que tu es suffisamment serein, ouais, pour sûr. Te dire que, écoute, bah, ça nous est arrivé, on peut donner l'anecdote. Indiana était le deuxième workout qui était prévu pour Mohamed Diawara, jusqu'au moment où ils sont passés en finale. Et là, le workout avec Indiana, le 5 juin, c'était le jour de la première manche de finale NBA. Donc là, il a sauté. Et j'avais dit à Mohamed, écoute, ils ont le choix numéro 53 de mémoire, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on va en faire un avec juste après Sacramento, puis après Chicago, on va s'adapter. Et puis, en fonction de quel est le timing de durée de la finale NBA, peut-être qu'on ira faire le workout avec Indiana. Et bien Indiana est parti jusqu'au match 7, donc on n'a jamais pu faire le workout avec Indiana. Et c'est ça en fait la gymnastique qu'on doit apprendre à maîtriser, quoi.
Peut-être un autre côté stressant du métier d'agent aussi, c'est cette relation aux médias. Comment est-ce que vous gérez ça, ne pas laisser aussi transparaître sur certains joueurs? J'ai vu que vous avez éteint notamment la rumeur Ify en NCAA il n'y a pas longtemps. Comment on gère tous ces côtés rumeurs, ce rapport aux médias quand on est agent?
Nous, on essaye sincèrement d'éduquer nos joueurs, dans le sens, les jeunes joueurs, sur le fait que vous devez maîtriser aussi un peu votre image et ce que vous dites. C'est important. On bosse avec les médias qui sont reconnus et sérieux, et généralement sur les rumeurs, on prend le parti de ne pas y répondre. Voilà, parce que sinon, on n'aura pas fini. À chaque rumeur, on va devoir intervenir. Dans celle dont tu parles là, c'est que c'était trop. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un journaliste espagnol qui, je ne sais pas sur quelle base, s'est mis à écrire sur Twitter que Nadir Ify pourrait partir en NCAA à la fin de saison. Et là, il y a eu un emballement absolument incroyable. Au début, Nadir m'envoie la capture écran. On en rigole dans notre groupe. Puis là où on en rigole de moins en moins, c'est que je reçois 1, 2, 3, 5 coups de téléphone de fac d'équipe de NCAA qui me disent, mais c'est vrai que Nadir Ify peut venir, parce que nous on le veut, on va mettre une offre tout de suite, 1 million, 2 millions, et ça part complètement en vrille. Le truc, ça prend les proportions qu'on connaît maintenant avec la viralité des réseaux sociaux, où le truc est très 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 rapidement devenu viral. Donc ce que nous sommes obligés de faire, nous,
de protéger le joueur,
et d'éteindre l'incendie en disant, je ne sais pas d'où vient cette rumeur là, mais c'est aussi infondé qu'insensé, parce que La personne qui a dit ça, est-ce qu'elle s'est posé la question du fait que Nadir Ifi s'est présenté à la draft il y a un an ? Donc techniquement, est-ce qu'il est éligible ?
Pas vraiment.
Et on parle d'un joueur en plus qui vient d'être rising star de l'Euroleague. Quel serait son intérêt de repartir jouer avec des lycéens ? Ça n'a pas de sens, en fait.
Ça n'a aucun sens.
Donc en fait, ça, on était obligé de l'éteindre. On ne pouvait pas laisser passer parce que sinon, on alimentait un truc qui était complètement faux.
Toujours sur ce rapport aux médias, il y a des mecs qui, pour les fans de NBA, ce sont des vrais stars. On parlait d'Adrian Wojnarowski pendant des années, ouais, qui était quasiment autant une star que les joueurs NBA. Maintenant, tu as Shams Charania qui a pris le relais. Messieurs, tous les deux, Gershon, Olivier, ces gars-là, Shams Charania par exemple, ils vous contactent, vous savez comment ? Est-ce que vous avez déjà eu, Gershon, on peut commencer par toi, est-ce que tu as déjà eu Shams Charania dans tes DM qui te demande des confirmations, des infos ?
Moi, j'allais dire, c'est une bonne question parce que j'aimerais bien entendre la réponse d'Olivier parce que je me suis toujours posé la question, mais comment il sait tout ça ? C'est quelqu'un qui lui dit, c'est pas possible.
Alors...
Les gars, ils se sortent des infos, des trucs qui sont dans un meeting entre quatre murs avec de... Tu dis, ah ouais, c'est
Olivier,
c'est
on t'écoute.
je le dis ouvertement, Shams Charania est la personne des médias américains qui a dû le plus marceler l'été dernier pendant les JO.
Ah, ok.
Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il était constamment en train de dire, j'entends des bruits de retour de Gershon en NBA. Est-ce que c'est vrai ? Qui est chaud ? J'ai entendu Denver. J'ai entendu cela. Et donc, à un moment...
C'est jusqu'à ce que tu craques, en fait.
Ouais, c'est vraiment du précis. C'est vraiment du précis. Chez vos confrères du foot, on appelle ça un 4-4-2. Vraiment, c'est du pressing. Et c'est-à-dire que il y a des choses sur lesquelles, oui, lorsqu'il avait de l'information et que ça avait fuité, parce que l'année dernière, c'était Wojnarowski qui avait annoncé ton arrivée en NBA, il y a des moments où on leur parle, des moments où on dit rien. Et cette année, on avait pris le parti de ne rien dire à personne, ouais, puisqu'on ne pouvait pas se le permettre. Mais par ses raisons infiltrées, il pensait au début que c'était Denver, et après, il a entendu pour New York, il a balancé New York. Mais c'est des gens qui sont extrêmement connectés aussi bien avec les franchises, ouais, qu'avec les agents, mais aussi qu'avec les joueurs.
Ouais, il y a des fois, il y a des joueurs. Hein. Moi, non.
Tu préfères rester loin de ça ?
Ouais, déjà, je pense qu'il regarde l'équipe, il se dit, bon, pas forcément moi. Et ça ne m'intéresse pas non plus. Moi, les trucs comme ça, je suis concentré basket, c'est déjà assez. Mais c'est vrai qu'on s'était posé la question et qu'on s'était dit, peut-être c'est des joueurs ou des coachs. Parce qu'avec le problème qu'on avait eu à Philly cette année avec la réunion là, qui a été leak un peu, là, qui s'était sorti un peu n'importe comment... moi j'avais été clairement choqué, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est trop bizarre en fait, parce que on termine la réunion, c'est arrivé quelques heures après, je crois. Un truc comme ça,
vraiment,
et il y a des trucs qui sont sortis un peu mot pour mot, donc ça veut dire on se regarde ah ouais, quand même, on dirait même que quelqu'un a enregistré, parce que c'est tellement, il y a des trucs qui sont sortis, c'était incroyable, mais c'est juste sorti du contexte comment c'est sorti, c'est ça qui est dommage, parce que par exemple, bon, pas pour faire un gros point là-dessus, mais par exemple c'était sorti que Tyrese, en gros, il avait crié un peu sur Joël en disant c'est pas ce qui s'est passé, de la façon dont lui il expliquait, il disait en gros que oui, moi dans l'équipe je suis impliqué, ça veut dire que si Joël il est en retard, je me dois d'aller lui dire, alors que quand tu lis les médias, on dirait qu'ils sont embrouillés les deux et qu'il leur a mis les pendules à l'heure, etc. Non, c'est pas du tout comme ça. Ils s'entendent très très bien les deux, ils sont amis et ils voulaient juste mettre un point quand on s'expliquait, parce qu'on était dans une période un peu difficile. Du coup, on se disait juste les choses.
Et quand il y a des infos qui sortent comme ça, que ce soit cette fameuse réunion ou les annonces de trade ou autre, là aussi, il y a l'importance de l'agent pour toi. C'est quelque chose sur lequel tu t'appuies énormément dans ces moments-là.
Ouais, bien sûr, parce que à ce moment-là, tu sais pas ce qui peut arriver. Bon, encore là, ça va, parce que moi, on était sûr que c'était pas moi, parce que je savais très très bien que c'était pas moi. Donc forcément, c'est un rapport différent. Mais je me dis, si t'es la personne qui a parlé un peu sans faire exprès ou t'as laissé traîner un peu et que quelqu'un le reprend, là, t'as besoin de ton agent. Donc là, tu vas contacter ton agent pour essayer de voir comment ça se passe et tout. Et puis voilà, c'est vrai que les agents sont là dans les bons moments, mais comme il disait Olivier, dans les mauvais moments aussi, ils sont là. Donc c'est dans ces moments comme ça là que tu t'appuies beaucoup sur
ton agent. Vous êtes un peu une éponge, en fait.
Ouais, c'est absorber l'attention, absorber l'inquiétude, c'est faire entre guillemets le filtre et dire aux joueurs ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce sur quoi il ne doit pas porter d'attention. Et c'est surtout le cas, effectivement, quand tu connais des périodes de trade où ton nom circule dans les rumeurs. Et là, tu ne sais pas trop. Moi, je me rappelle de l'époque avec Frank Ntilikina. Ouais. T'attendais jusqu'à la dernière minute si vraiment tu étais tradé ou pas. Tu pouvais faire partie d'un package. Donc, c'est des choses que tu ne maîtrises déjà pas à 100%, mais tu essaies de faire en sorte que ton joueur ne soit pas trop inquiété par tout ça.
Olivier, c'est quoi ton, vu qu'on rentre là-dedans, ton pire souvenir, entre guillemets, en tant qu'agent, le moment où ça a été le plus galère, où t'as pris un bouillon pas possible, où quand tu y repenses, tu te dis, voilà, cette période-là, c'était horrible. Est-ce que t'en as un en tête ou pas?
Ouais, j'en ai un en tête. Malheureusement, c'est le jour où j'ai dû me rendre au chevet de Ludovic Vatti dans le cadre de son coma et donc après de son décès. Sincèrement, ce jour-là, je me suis demandé si j'allais continuer. Parce que je me suis dit que j'avais été, à mon avis, préparé à tout, mais non, pas du tout. Ouais. Je ne pensais pas du tout que j'aurais à gérer un truc comme ça un jour. Sa maman était en Guadeloupe à ce moment-là, donc il fallait gérer ça avec la famille. Et ouais, ce jour-là, j'ai pris le bouillon. Ce jour-là, en fait, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais est-ce que véritablement, je suis fait pour ça ou pas? Donc, ça m'a permis de relativiser énormément de choses. Avant, vous m'auriez posé la question avant, je vous aurais dit, bah ouais, quand tu as deux joueurs qui font une finale, c'est dramatique. Quand tu as un joueur qui se blesse, c'est super dur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais malheureusement, j'ai connu un truc qui fait que j'ai été marqué vraiment par cet événement-là.
Ouais. Ouais, ça fait relativiser beaucoup de choses.
Et du coup, maintenant, je prends les choses avec une certaine forme de distance. Parce qu'il se trouve que voilà, les médias en avaient parlé. Moi, je suis le parrain de son fils aîné. Donc, il y a une relation affective qui est assez différente. Et là, tu te dis, ça va très au-delà du sportif. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as une famille qui est décimée. Enfin, tu as des choses qui sont très compliquées. On l'a vécu déjà une première fois où il a dû arrêter sa carrière à l'âge de 23 ans. Donc ce truc-là m'avait déjà marqué. Un mec qui était au sommet, entre guillemets, presque de son jeu, MVP de la Leaders' Cup, il rentrait en équipe de France. Déjà, tu dois stopper sa carrière à 23 ans. Donc déjà, ça, c'est pas évident. Toi, tu t'annonces à tout le monde, sa mère, son entourage, qu'il faut qu'on arrête le sport de haut niveau parce qu'il y a un risque pour ta santé. Donc déjà, ça, je m'étais dit, bon, je vois pas ce que je vais pouvoir connaître de pire, entre guillemets, moi, en termes de gestion humaine, qu'une fin de carrière. Voilà. Donc il y a des événements qui te marquent et qui maintenant te font relativiser beaucoup de choses dans ce qui arrive malheureusement des fois aux joueurs, qu'ils ont tendance à dramatiser, et je les comprends parce que c'est eux qui vivent ça au quotidien. Quand tu viens de perdre une finale d'Euroleague et je me suis retrouvé à Abu Dhabi il n'y a pas très longtemps avec les joueurs de Monaco, un garçon comme Mathieu Strazel qui a eu l'habitude de gagner énormément de finales, il ne comprenait pas forcément ce qui lui arrivait à ce moment-là. Mais voilà, il faut aussi savoir relativiser les choses.
Et le plus beau souvenir ?
Il y en a plein. Cette finale olympique, j'étais super heureux pour eux. Des joueurs qui, à tous les niveaux, que tu peux être champion de Pro B, que tu peux être MVP, entre guillemets, du championnat espoir. C'est vraiment, tu vois, voir la joie et la concrétisation de travail chez certains des joueurs. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, mais les drafts, les finales gagnées, voilà.
Et puis les liens créés, peut-être.
Et les liens créés, les moments de célébration. On parlait de mariage, on parlait de témoins de mariage pour certains, etc. C'est ces moments-là, en fait, moi, qui m'ont marqué humainement.
Désolé, je ne vais pas parler d'humain, mais si on parle un peu chiffres, c'est quoi ? Est-ce que tu te rappelles d'une première fois que t'as vu un contrat à 7 chiffres, donc avec qui dépassait le million de dollars ? C'était Gershon.
C'était avec Gershon lors de sa draft, puisque au moment de la draft, on avait les tableaux de masse salariale par rapport au pic et qu'on a dû regarder forcément par rapport au choix numéro 16 ce que ça représentait. Et ouais, c'était là la première fois. Ouais.
Ça fait bizarre un peu ?
Ça fait bizarre parce que entre guillemets, c'est pas des montants qui sont communs au championnat de France et même à l'époque en Euroleague. Les salaires n'étaient pas aussi élevés en 2016. Ouais. Donc maintenant, sur des joueurs d'Euroleague, on signe des contrats à millions d'euros. Ça n'existait très peu avant. C'était vraiment la crème de la crème qui prenait ça. Donc ouais, ça fait bizarre. Et puis après, très rapidement, tu essaies de dépassionner le chiffre. Vraiment, c'est ça le plus important. Ne pas mettre trop d'affect sur le chiffre, te dire ok, ça fait partie du masse salarial dans une ligue et voilà.
Même question pour toi, Gershon. Ça fait quoi la première fois qu'on voit ce chiffre ?
C'est impressionnant. Impressionnant. Moi, ma première fois, c'était forcément la draft. Je suis drafté, mais bon, je n'ai pas été payé à ce moment-là. Ouais. C'était plus quand je suis allé en Chine juste après, à Shanghai, que c'est là que j'ai vraiment commencé à toucher de l'argent. Et puis, moi, en plus, je sortais de, on va dire, mon petit contrat de Rouen. Donc, forcément, la première paye et tout, quand ça arrive, c'est assez fou. Mais oui, t'essayes un peu de garder les pieds sur terre, t'essayes un peu d'essayer de gérer. Mais à ce moment-là, je m'en souviens, c'était dingue. J'avais reçu l'appel de la banque qui comprenait pas. Donc, disait oui, bonjour, vous avez reçu un gros virement de. Je dis ouais, en fait, parce que je joue en Chine. D'accord, ah ouais. Mais ça va être comme ça tout le temps. Donc on rigolait un peu. Donc après je lui explique. Mais ouais, c'est vrai que c'était assez surprenant ouais, ce moment-là.
Après un appel de la banque quand c'est dans ce sens-là, ça se passe toujours.
C'est toujours bien.
Bien.
C'est toujours bien. Bizarrement,
c'est assez rare.
Facile de les appeler. C'est facile de faire plein de trucs. C'est vrai.
Olivier, sans rentrer dans les détails, pour les gens qui peuvent se demander comment fonctionne une agence comme ça de sportifs, comment une agence se rémunère concrètement ?
Bah, y a deux cas de figure. À 99% en Europe, les joueurs sont rémunérés par les clubs. On est des mandataires mandatés par les clubs pour négocier avec les joueurs. Alors, il y a une forme d'hypocrisie juridique, mais c'est la réalité. Hormis le Real Madrid qui impose à ses joueurs de régler eux-mêmes les agents. Parce que voilà, ils veulent pas être au milieu des changements d'agents intempestifs, etc. Et puis en NBA, on est rémunéré par les joueurs directement. Puisque les agents, contrairement en France, sont gérés par le syndicat des joueurs en NBA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le syndicat des joueurs qui régule la profession. Là où en France, on est géré par la fédération. Donc, à 99%, ce sont les groupements sportifs. Et en NBA ou dans des clubs comme le Real, ce sont les joueurs. Sur des montants qui sont capés, qui sont inscrits dans des règlements, on ne peut pas aller au-dessus, tu ne peux pas aller en dessous, tu peux aller à zéro, mais bon, tu n'as plus d'activité commerciale. Mais voilà, tout est très réglementé et encadré.
Encore deux petites minutes, messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous dans Basket Time. Une dernière question autour de l'actualité. Il y a énormément de rumeurs autour de Nadir Ifi, autour de Mathieu Strazel, autour de Franck aussi qui a pu en avoir. Quelles sont l'actualité de ces joueurs-là ? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Olivier, sur ce qui s'est passé ces dernières semaines par rapport à ce qui figure comme les plus gros noms dont on peut parler dernièrement ?
En ce qui concerne Franck, il a encore une année de contrat au Partizan Belgrade. Il fait l'objet d'intérêts également d'équipes qui se sont manifestées ces derniers jours. Mathieu, comme vous le savez, est sous contrat avec Monaco. Ils ont une quête de victoire en Euroleague qui est très importante et qui vont essayer d'aller décrocher rapidement. Et puis le dossier qui faisait aussi beaucoup parler, c'était celui de Nadir Ifi.
On l'a envoyé à Monaco.
On l'a envoyé à Monaco. Finalement, visiblement, on l'a rattrapé de Monaco. Donc ça a été, on l'a envoyé en NCAA. Enfin, tout a été fait avec lui. On est à 24-48 heures de prendre une décision finale. Aujourd'hui, c'est un joueur du Paris Basket. Contractuellement, et voilà, on essaiera de clôturer ce dossier-là pour que, juste après le quai 54, il puisse partir en vacances l'esprit libre, avec une décision arrêtée, et qu'il soit uniquement sur la préparation de son stage en équipe de France.
Merci Olivier.
Merci à vous messieurs.
Merci beaucoup Gershon d'avoir été avec nous dans Basket Time. Merci Félix, merci beaucoup. À vous de nous avoir écoutés, et puis évidemment, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Basket Time.
RMC Basket Time.